Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Salut à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens. On se retrouve après une pause estivale. Je suis Benjamin Hagen et je suis avec mon cousin Maxime Georgel. Salut Maxime.
Salut, bonjour à tous.
Et on se retrouve effectivement après une pause estivale parce que grande nouvelle, Maxime s'est marié cet
c'est
été.
Enfin fait.
De quoi ?
Ça y est, c'est fait.
C'est fait, voilà. Alors qu'est-ce que ça fait Maxime d'être marié ? Depuis un mois et demi.
Un annuaire et quelques, ouais. Un annuaire un peu plus lourd.
Voilà, exactement.
Non, c'est chouette, on est content. Je commence à m'installer à Lille tranquillement et je me prépare pour la rentrée.
Trop bien. Et donc, on a respecté un peu voilà, que Maxime puisse profiter la pause. L'épisode était prévu pour le 15 juillet, mais on a été un peu trop ambitieux. Et donc, on s'est dit, on va faire la pause et puis lancer à nouveau avec la rentrée. Donc, maintenant, on est le 1er septembre. C'est reparti pour les cousins théologiens. Le mariage n'arrêtera pas les cousins théologiens. Rien ne pourra arrêter les cousins théologiens.
Non,
super. Et donc, on se retrouve pour parler de ce fameux sujet dont on n'a jamais parlé dans un épisode, mais on a toujours voulu l'aborder, le calvinisme. Alors, peut-être que le titre vous a accroché, peut-être que le titre vous a choqué de dire que, mais qu'est-ce qu'ils font, Ben et Maxime, à parler de ce sujet? C'est souvent un sujet très controversé. Et on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'on aborde ça? Donc, on va parler ensemble. Peut-être que l'épisode sera un petit peu plus long que d'habitude, mais on trouve quand même important d'aborder ce sujet. Donc, Maxime, peut-être on peut commencer. Si tu peux commencer par définir un peu ce qu'on entend par calvinisme pour un peu débroussailler toute la discussion de ce qu'on aura.
Oui, tout à fait. Alors, le calvinisme, c'est l'articulation, la compréhension biblique de la façon dont Dieu sauve les hommes et comment il met en œuvre son plan du salut dans la vie des hommes. Et en particulier, on pense que Dieu sauve les hommes en choisissant de toute éternité, en les régénérant d'une façon souveraine et toute puissante, et en les attachant à Christ pour en faire son peuple. Et l'accent qui est mis dans le calvinisme, c'est sur l'œuvre de Dieu, le fait qu'il est à l'origine de tout ça, à l'initiative, c'est lui qui commence cette œuvre, qui la poursuit, qui la termine. Et l'homme est en quelque sorte... Le bénéficiaire, c'est celui qui est gracié, mais c'est vraiment Dieu l'origine, l'œuvre, c'est Dieu qui sauve. Mmh. Et un théologien, je sais même plus qui a dit ça, mais le meilleur résumé du calvinisme, c'est Dieu sauve des pécheurs.
Mmh. Ouais, exactement. C'est une doctrine qui met en avant la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent les doctrines de la grâce, qui met les feux de projecteur sur la grâce de Dieu, d'un Dieu souverain qui sauve, alors qu'il ne devrait pas sauver, qui serait pas obligé de sauver. Et si ça vous intéresse plus, le but de cet épisode n'est pas de définir ou de défendre le calvinisme bibliquement. Je pense qu'il y a d'autres livres ou d'autres articles qui font ça. Et je mentionne la série d'articles que Maxime a écrite d'ailleurs pour La Révolution, qu'on avait appelé Redécouvrir la grâce, où il a fait 5 articles sur les 5, ce qu'on appelle généralement les 5 points du calvinisme. Donc je vous invite à aller lire ça, on va le mettre dans la description. Il y a aussi le livre de John Piper, Les 5 points du calvinisme, qu'on recommande pour creuser plus ce sujet.
Voilà, on a choisi le titre « Redécouvrir la grâce » peut-être aussi pour faire tomber des préjugés. Mmh. En tout cas, c'est un blog, l'AREB, un blog d'édification pour les jeunes. Et Benjamin, malgré tout, est venu me contacter pour me dire « Ah, une série sur le calvinisme, est-ce que ça serait pas utile ?» Pourquoi t'as pensé que ça pouvait être utile, une série sur un sujet controversé, peut-être mal compris, mmh, sur un blog jeunesse et un blog d'édification, d'encouragement qui veut motiver les jeunes?
Ouais. Donc c'est l'idée de... Donc je t'ai demandé de faire cette série d'articles et j'ai toujours voulu aborder ce sujet. Et en fait, ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus qui disait « Mon calvinisme, c'est un peu comme un morceau de sucre que je mets dans mon café. Ce n'est pas le sucre en lui-même que je donne, mais il est dilué dans tout ce que j'enseigne, dans tout ce que je fais. » Et je crois que c'est la même chose avec l'AREB. L'AREB est le blog jeunesse d'Évangile 21 qui a cette vision de la souveraineté de Dieu, y compris dans le salut. Et dans un sens, dans tous les articles qu'on aborde, dans la manière d'approcher l'écriture, dans tout ça, on a cette compréhension d'un Dieu qui est souverain dans le salut. Mais c'est la première fois où on l'a abordé en tant que tel, un peu de front. Et le but, c'est pas d'être polémique pour être polémique. Je veux fuir ce genre d'article ou juste faire du buzz pour faire du buzz. Mais si on l'a abordé, c'est parce que je crois que c'est un sujet important, même s'il est controversé. C'est pas parce qu'un sujet est controversé ou parce qu'un sujet provoque des débats qu'on doit l'éviter. Parce que certains sujets sont controversés, mais importants. Et en fait, je crois que c'est un sujet même, et on va en parler plus dans la suite, je pense, dont la position qu'on a sur ce sujet-là va vraiment impacter notre manière de vivre la vie chrétienne, notre approche de l'écriture, et même notre vision de Dieu lui-même. Et donc, c'est un sujet c'est un domaine qui impacte beaucoup d'autres sujets, et donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des convictions dans ce domaine-là. et aussi parce que ce n'est pas un détail de la Bible. C'est un sujet dont la Bible parle de nombreuses reprises. La Bible parle à plusieurs reprises de prédestination, d'élection, de la souveraineté de Dieu. Et on doit se demander, donc on est en droit de se demander par amour pour la parole, par amour pour Dieu lui-même, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique ? Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'aborder ce sujet, même s'il est controversé, mais de le faire bien sûr avec douceur, avec respect, avec beaucoup de compréhension. Et d'éviter, c'est, d'ailleurs on a étudié, comme tu l'as dit, cette série Redécouvrir la grâce, en évitant un peu les termes qui sonnaient calvinistes, pas pour fuir le débat, mais simplement parce qu'on voulait pas que des gens soient freinés juste en voyant « Ah, ça parle de calvinisme, donc c'est pas pour moi, ou alors ça veut dire ça, ou mettre dans une case », parce que malheureusement je pense que c'est souvent le cas. Et du coup peut-être Maxime, tu peux, par rapport à ça, tu peux partager pourquoi d'après toi le calvinisme est mal compris aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que dès qu'on entend le calvinisme, voilà, on va se dire « Ah, c'est des gens qui croient pas à l'évangélisation, qui ont une vision d'un Dieu cruel ». Est-ce que tu pourrais, tu as des choses à dire par rapport à ça ?
Oui, je pense qu'il y a, deux raisons principales. La première, c'est peut-être la caricature qui en est faite par les adversaires du calvinisme. Et la deuxième, je pense, c'est le mauvais témoignage des calvinistes eux-mêmes. Certainement dans l'histoire, peut-être leur, en particulier leur rigueur, leur étroitesse d'esprit, c'est des choses qui se retrouvent. Et c'est pas uniquement une caricature du calvinisme, c'est des choses réelles dans le sens où... Ouais. Si on regarde l'histoire des mouvements calvinistes, on peut tomber sur des personnalités particulièrement fortes, mais dans un sens un peu négatif.
Ouais. Ouais, si on pense par exemple à l'époque de William Carey, où il y avait ce qu'on appelle souvent l'hyper-calvinisme, donc une mauvaise vision de la souveraineté de Dieu et du calvinisme qui disait que si Dieu est souverain, alors il n'y a pas besoin d'évangéliser. Et il y a cette anecdote qu'on raconte souvent de William Carey qui a partagé son fardeau dans un comité où je ne sais plus exactement où son fardeau d'annoncer l'évangile au monde, aux païens, à tous ceux qui n'avaient jamais entendu l'évangile, au peuple non atteint. Et quelqu'un qui s'est levé et qui a dit « Mais jeune homme, rasseyez-vous, quand Dieu voudra sauver les païens, il le fera sans votre aide. » Et ça, c'est une mauvaise compréhension du calvinisme ou de la souveraineté de Dieu telle que la Bible enseigne, parce qu'on sait que, oui, Dieu est souverain pour sauver, mais ce Dieu souverain, dans sa grâce, a choisi souverainement d'utiliser des moyens pour parvenir à ce but. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans Romains 10, 14 et 15, ou d'autres passages qui montrent la nécessité de l'annonce de l'Évangile et que Dieu se sert de moyens humains pour accomplir son plan. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'exemples de ça, d'un calvinisme mal compris, des textes bibliques mal compris, et qui jette du discrédit sur le calvinisme lui-même.
Voilà, c'est pas parce que la personne se réclame d'un mouvement qu'elle en est le fidèle représentateur ou qu'elle a l'étiquette qui lui permet de parler au nom de tous.
Ouais.
Donc c'est vraiment ça. Si vous écoutez ce podcast avec déjà une idée, le calvinisme c'est ça. Peut-être réévaluer ce que ça veut dire.
Ouais. Exactement. Et là, je pense souvent, moi je me souviens quand j'ai entendu parler de ces doctrines au début, j'avais beaucoup de préjugés de choses qu'on m'avait dites ou que j'avais entendu, vraiment que c'était la vision d'un Dieu cruel, qui avait juste des pions avec lesquels il jouait avec cruauté, etc. Mais il faut juste réaliser que c'est pas du tout ce que le calvinisme met en avant. Et on veut, en tant que calviniste, on veut s'attacher à ce que la Bible présente et on veut s'attacher fermement à la manière dont la Bible parle de Dieu, de différentes manières. Et donc à la fois, oui, Dieu, la Bible présente un Dieu souverain, totalement souverain, mais on ne doit jamais laisser de côté le Dieu bon dont la Bible parle, le Dieu qui est plein de grâce, le Dieu qui est plein de compassion. Et je pense qu'il y a le danger, en adhérant à une doctrine, de ne pas voir les différentes manières dont la Bible parle de Dieu et de ne pas rester attaché à l'Écriture elle-même. Et donc c'est ça l'appel qu'on veut avoir, c'est rester attaché à l'Écriture, prendre en compte toutes les données bibliques. Et donc, si notre vision du calvinisme nous amène à voir un Dieu cruel ou un Dieu qui n'est pas bon, qui n'est pas profondément bon, on n'a pas une juste compréhension de ce qu'est le calvinisme.
Oui, et à ce sujet, je pense qu'à un certain moment dans ma compréhension du calvinisme, j'arrivais à une vision déséquilibrée de Dieu, dans le sens où à insister fortement, à joindre le calvinisme avec en plus le sort de rejet des slogans un peu rapides évangéliques, Dieu aime le pécheur, déteste le péché, etc. Des slogans qui sont un peu simplistes. On peut en voir à ne plus apprécier la doctrine de l'amour de Dieu, qui est pourtant très profonde et qui éclaire tout le calvinisme. Tu vois, et les deux doivent être tenus ensemble. La bonté fondamentale de Dieu, le fait qu'il n'est pas malveillant, même dans la damnation des pécheurs, il ne leur rend que ce qu'ils méritent, mais il n'est pas malveillant, il n'a pas agi pour leur mal. Il leur a rendu selon leurs actes. Et comprendre la bonté de Dieu avec le calvinisme, ça nous donne une vision de Dieu qui est une puissante motivation pour la vie. Alors, on aura l'occasion de parler de ça plus tard, un peu plus loin dans le podcast. Mais tu as mentionné un peu les questions que tu avais eues et les préjugés. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler maintenant, mais ça pourrait être intéressant que tu nous racontes comment tu es devenu calviniste, parce que je sais que ça a été une question à un moment précis, en tout cas dans ton cheminement.
Ouais. Donc, quand je suis venu au Seigneur, quand j'avais 17 ans, j'étais pas du tout, enfin, j'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est petit à petit, en lisant ma Bible, que j'en suis venu à lire des passages comme Éphésiens 1 ou d'autres passages qui parlaient d'élection, de prédestination, et à me poser des questions par rapport à ça. Et j'y ai répondu assez simplement dans ma tête, en voyant un peu ce qu'on m'enseignait autour de moi. Et donc, c'était une vision arminienne classique même totalement anti-calviniste, pas de manière active, mais quand on m'a présenté le calvinisme pour la première fois, alors je sais pas si c'était, je me souviens plus quand c'était, mais j'étais vraiment opposé. Je me disais, mais voilà, comme j'ai partagé, c'est un Dieu cruel, c'est pas juste, tu vois, pourquoi Dieu sauverait certains et pas d'autres, et mon cœur était vraiment opposé à ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, Maxime, on a eu l'occasion d'en parler très souvent, et j'ai probablement les traces de SMS ou de conversations WhatsApp très très animées, très très virulentes, presque plus que ce qu'on a sur le baptême en ce moment. Ouais. Mais parce que Maxime, lui, était calviniste et moi, je n'étais pas du tout. Et on argumentait, on échangeait par rapport à ça. Et en fait, d'autres choses qui me gênaient, et d'ailleurs, je pense que c'est un danger, c'était de voir ça comme une simple doctrine humaine, c'est-à-dire des gens qui se rattachaient à Calvin. Et je me disais, mais on a besoin de s'attacher à la Bible. Et je pense que là, c'est aussi, des fois, le calvinisme, c'est mal compris. On croit que c'est une doctrine humaine où, voilà, des gens, on veut suivre Calvin. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. En fait, on veut s'attacher à ce que la Bible enseigne, à l'évangile tel que la Bible le présente. Et oui, on appelle ça calvinisme parce que Calvin est l'un de ceux qui a enseigné ça de manière particulière, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Ça existait avant Calvin et ce n'est pas lui seul qui l'a défendu. Et donc, c'est pour ça que ça m'a aidé aussi de parler de doctrine de la grâce et de voir que c'est simplement comment mettre la grâce de Dieu en avant. Et en fait, dans ma vie, moi, je pense que ça s'est fait assez petit à petit, et étape par étape, en fait. D'abord, en réalisant la vision d'un Dieu glorieux, d'un Dieu souverain, vraiment d'un Dieu qui est Dieu, en fait, qui fait ce qu'il veut, et qui a le droit de faire ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Pas d'un Dieu cruel, pas d'un Dieu injuste, comme on l'a dit, mais d'un Dieu qui est totalement souverain et qui agit pour sa propre gloire. Rien que de réaliser ça, je pense que c'est une des premières étapes qui a mis les cases au bon endroit dans ma tête, tu vois, de voir que mais le but de Dieu, c'est d'agir pour sa propre gloire, parce qu'il n'y a personne d'autre pour qui mérite d'être glorifié autre que Dieu. Et après, enfin, assez simplement, c'était en lisant Éphésiens que j'ai capitulé, je me souviens encore, et de voir, mais oui, en fait, c'est ça, et de simplement être émerveillé de voir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, qui de toute éternité a porté son regard de faveur sur moi, alors que je ne le méritais pas. Ouais, et on parlera un peu plus de l'impact dans la prochaine question. Pour toi, c'était comment ? Tu peux partager un peu ? Ou toi, c'était plus... Enfin, c'était pas vraiment devenu calviniste, comme tu disais, mais...
Ouais, alors... Je pense qu'assez tôt dans ma vie chrétienne, même si ça ne devait pas être aussi clair et je ne savais pas nommer ça calvinisme, j'avais cette compréhension de par le fait que plusieurs mois avant ma conversion, j'avais commencé à lire un peu plus la Bible. Et il y a des passages déjà qui m'indiquaient cette direction. Et ensuite, l'autre facteur qui a fait que très tôt j'étais calviniste sans en connaître le nom, c'était que je me suis converti en écoutant une prédication de Paul Washer, qui m'a donné envie d'écouter d'autres prédications de lui, et c'est un prédicateur calviniste dont le calvinisme se retrouve, comme tu disais, comme le sucre dans son café. C'est partout dans sa prédication de la croix, de la sanctification, on voit vraiment cette vision d'un Dieu totalement souverain et du fossé immense qui existe entre nous et Dieu. Et de la réconciliation toute puissante, toute souveraine que le Christ a faite. Donc je pense que c'est comme ça que je suis devenu calviniste, et c'est plutôt au cours de mon cheminement intellectuel, jusque même encore récemment, que des objections se sont présentées à moi par d'autres personnes, ou même par moi-même dans ma lecture. Ah oui, mais est-ce que ça veut dire ça, du coup, ce genre de questions qui se présentent et qui m'ont amené à préciser ce que je croyais. J'ai jamais abandonné le calvinisme, mais plutôt, comme je te disais, une version déséquilibrée, repartir dans, tu vois, faire des ajustements un peu.
Ouais, c'est ça. Et là, ça permet de dire que, enfin, ce qu'on veut dire en disant devenir calviniste, etc., c'est jamais d'adhérer à une étiquette ou de prendre un parti, mais c'est simplement, on veut s'attacher plus à ce que la Bible enseigne. On veut grandir dans notre compréhension de la parole, et c'est vraiment dans ce sens-là où on parle de calvinisme. C'est comprendre des passages comme Éphésiens 1, Romains 9, 2 Timothée 1, 9, et tellement d'autres. qui parle de cette souveraineté de Dieu, qui parle de ce choix de Dieu. Et on veut simplement arriver à une compréhension plus juste de la parole. On est prêt à être repris, on est prêt à être... comme tu dis, on reçoit des objections de la part des personnes, ça nous aide à travailler plus. On lit dans notre lecture des textes
Plus on étudie aussi la théologie, plus on a du vocabulaire ou des outils qui nous permettent de formuler plus justement les choses. Mais, mais comme tu dis, ce n'est pas une étiquette, c'est toujours une tentative d'exprimer le plus fidèlement possible, d'enseigner le plus fidèlement possible, de transmettre le plus fidèlement possible l'enseignement biblique. Et c'est vraiment comme tu disais au début, tu as dit qu'à un moment, toutes les cases se sont mises en ordre dans ta tête. Et je pense que c'est une bonne façon d'exprimer l'impact de cette doctrine sur notre pensée. Parce que c'est pas une vérité qu'on rajoute à la liste de nos croyances. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du coffre qui les contient. Quoi. C'est ça fait partie de... C'est difficile à exprimer, mais c'est similaire simplement à la conversion. Quand on se convertit, on saisit des vérités sur Dieu qui transforment ensuite tout le reste, la façon dont on se voit, dont on voit nos proches, dont on voit notre rôle sur Terre. Et saisir la souveraineté de Dieu, c'est pareil, ça éclaire vraiment notre condition et notre mission dans ce monde, notre vie chrétienne, notre lecture de la Bible et beaucoup de choses dont on pourrait parler en grand détail, mais c'est vraiment un paradigme un peu.
Ouais. Et justement, pour creuser plus dans ce sens-là, pour parler de l'impact de cette doctrine dans notre vie, c'est pas une vérité théologique abstraite, mais c'est quelque chose qui impacte vraiment notre manière de vivre, de voir Dieu, de lire la Bible. Est-ce que tu peux partager un peu l'impact que ça a eu dans ta vie ? Et là encore, on ne parle pas d'une étiquette de quelque chose, mais simplement de réaliser ce que la Bible enseigne sur la souveraineté de Dieu et de voir comment ça nous a transformés. Tout comme on l'a fait quand on a parlé de justification dans le dernier épisode, on veut voir comment ces vérités théologiques impactent notre quotidien. Donc tu peux partager peut-être quelques domaines et je compléterai.
Je pense que l'encouragement principal que m'apporte cette vérité, c'est l'idée que Dieu me tient dans ses mains. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'aspect qui me touche le plus, l'idée que, quel que soit ce qui va m'arriver, si je crois en Christ, c'est parce que Dieu a œuvré, et s'il a réussi à m'arracher du péché, à me mettre dans la foi en Christ, il est aussi capable de me tenir, et il a promis de le faire. Et j'en parlais encore récemment avec mon père, qui sort d'une dépression, et il me disait que c'était la vérité qui le soutenait. Durant cette période, de savoir qu'il était en Christ et que ce n'était pas sa force. Ce n'est pas lui qui s'accrochait à Christ, c'est Christ qui l'avait dans sa main. Je pense que c'est la vérité la plus précieuse pour moi aujourd'hui dans ces vérités. Ouais. Une autre qui a surtout nourri mon adoration, c'est le fait que Dieu m'ait choisi de toute éternité. Quand on y pense, c'est incompréhensible le fait qu'avant de créer le monde, avant toute chose, Dieu avait choisi un peuple pour son Christ et qu'il m'avait inclus dedans en connaissant nos péchés. En connaissant, parce que si Dieu avait une préscience, cette préscience devait plutôt le pousser à ne pas nous choisir, en tout cas à ne pas me choisir. Et malgré sa préscience, il me choisit. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi. À chaque fois qu'on peut être déçu de nous-mêmes, on peut savoir que... Mais ça, Dieu le savait. Au moment même où il m'a choisi... Au moment où il m'a appelé à la foi, où il m'a fait naître et à la foi, il savait tout ce que j'allais faire, etc. Et malgré cela, il m'a choisi. Mmh. Ouais, c'est des vérités en fait qui sont plutôt de l'ordre de l'encouragement, je pense.
Ouais, exactement. Moi, c'est vraiment, enfin, ce que tu dis par rapport au fait que Dieu nous garde dans sa main. Moi, c'est ce qui m'encourage le plus. Et enfin, je pense le plus grand encouragement au jour le jour, en tout cas, de cette vérité. Enfin, l'impact de cette doctrine dans ma vie, c'est le repos pour mon âme, tu vois. De juste me dire, mais même, tu vois, quand des fois tu te couches le soir et tu penses à ta vie, ton avenir, à tout ce que tu dois faire, aux besoins dans le monde, tu vois, à tout ce qu'il y a, et tu peux avoir juste le cœur oppressé, juste être découragé et juste de se rappeler, mais Dieu est souverain. Dieu gère, Dieu contrôle le monde. J'ai prêché là il y a 2 semaines sur Ésaïe 40, le texte qui parle de qui a mesuré les océans dans le creux de sa main, qui présente vraiment la vision d'un Dieu qui est au-dessus de tout, d'un Dieu qui est... Et juste de réaliser ça, mais quel encouragement.
Magnifique chapitre, si vous ne l'avez pas lu. Mmh. C'est un magnifique chapitre.
Ésaïe 40, tout le chapitre, mais là, en particulier, les versets 12 à 26, juste de voir le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui règne, mais quel encouragement, quoi, de se dire, mais ça, c'est précieux pour la vie chrétienne, c'est précieux pour notre manière de voir qui est Dieu, ça a tellement d'implications pratiques, et même pour la... C'est pas... là où ça peut être mal compris, c'est pas une vérité, le fait de réaliser que Dieu est souverain, c'est pas une vérité qui va nous encourager à la paresse, c'est pas une vérité qui va m'encourager à rester sur le canapé, mais parce qu'on voit que oui, ce Dieu souverain, comme on l'a dit, a choisi de nous utiliser pour accomplir son plan, dans la prière, dans l'annonce de l'évangile, il y a des textes bibliques clairs qui montrent ça, mais au contraire, ça nous pousse à nous lever, à y aller, en réalisant que Dieu gère, en réalisant que Dieu est au contrôle, avec confiance, avec repos. Je rentre là d'une semaine d'évangélisation à Carcassonne, c'était tellement encourageant de sortir en sachant que bah, Dieu a un peuple. Comme il dit, là je lisais dans mon culte perso il y a un ou deux jours, Dieu qui dit à Paul à Corinthe, mais vas-y, continue, reste là, continue d'annoncer l'évangile, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je ne sais plus où c'est, acte 13 ou un peu plus loin. Ben c'est quel encouragement, tu vois, de savoir que Dieu veut sauver, et Dieu est puissant pour sauver, et Dieu va sauver. Et on annonce l'évangile à tous en sachant que Dieu va sauver. Et quel encouragement, ouais.
C'est, ouais. Ouais, mon père, qui est pasteur, donc, m'a partagé plusieurs fois aussi par rapport à ça, l'encouragement qu'il recevait. Et je pense que c'est un encouragement particulier pour ceux qui sont dans le ministère, et en particulier ceux qui ont l'évangélisation à cœur, de motiver les chrétiens pour l'évangélisation, ou ceux tout simplement qui sont dans l'implantation d'une église, parce que notre église a traversé des phases de désert, et de savoir aussi que c'est pas le prédicateur qui fait croire ou ne pas croire, mais c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre, c'est lui qui suscite la foi, parfois par des manières étonnantes, et même parfois pour nous humilier sans nous utiliser, on prêche pendant des mois et il n'y a pas de conversion, et d'un coup un chrétien qui en lisant sa Bible tout seul se convertit, et qui arrive, et c'est vraiment une vérité qui peut être encourageante pour le serviteur de Dieu, de savoir que c'est Dieu qui est à l'œuvre et c'est lui qui pousse à la foi.
Ouais, exactement.
C'est simplement précieux, ouais, en fait.
C'est ça.
Et c'est même vital, parce que sinon, le prédicateur aurait une pression sur ses épaules qui est bien au-delà de ce qu'il peut porter. On ne peut pas porter l'âme des autres et le salut éternel des gens qui nous entourent. Même si on le porte avec Dieu d'une certaine manière, on le porte en étant porté par Dieu. Parce que... Ouais. Ouais, sinon on serait écrasé sous la tâche, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Donc le repos, ça met en avant le repos, et on peut terminer avec ça, et la grâce, parce que bah, quelle grâce que Dieu nous utilise malgré tout alors qu'il n'a pas besoin de nous, et quelle grâce que Dieu nous ait choisi, ça met en avant la grâce de manière merveilleuse, ça met les feux de projecteur sur la croix de Christ et sur ce que Christ a accompli. Et je pense que c'est à ça qu'on doit rester attaché quand on parle de calvinisme, plutôt que de tomber dans des débats froids et stériles, ou des compréhensions voilà, vides de sens, mais de rester attaché à Christ lui-même qui est au cœur de ces vérités, parce qu'elles sont, ce sont des vérités bibliques. Quoi. Un dernier mot, Maxime.
Ouais, je pense qu'on devrait parler de ce sujet comme la Bible le fait. Paul s'en sert pour encourager les chrétiens, Dieu s'en sert pour encourager Paul, et c'est vraiment en se modelant sur ça qu'on fera le meilleur usage et qu'on évitera les controverses, parce que je pense qu'on rencontrera rarement un chrétien qui ne sera pas encouragé par ces vérités quand elles sont vraiment bien prêchées. Peut-être qu'il y aura de la résistance, mais comprendre que Dieu nous tient dans ses mains, ça fait partie de l'évangile même, et c'est quelque chose de tellement précieux qu'il n'y a pas de controverse à cet endroit-là. Ouais. C'est quelque chose de... Il y a simplement à savourer la vérité-là.
Ouais. Non, carrément. Super. Super encourageant. Merci, Maxime, pour ce podcast. Voilà, on avait fait 2 mois de pause, donc c'est pas grave de faire un podcast de 23 minutes. On se rattrape. On continue les épisodes tous les 1er et le 15 de chaque mois. Maxime, le prochain sujet, c'est quoi ?
Je ne sais plus.
Non, moi non plus. Je pense qu'on n'a rien planifié. Je me demandais si tu avais une idée spontanée, là, comme ça.
Non, mais... si tu me demandais, je croyais que j'étais censé savoir.
Mais... Ok, non, pas de problème. On verra bien. Mais merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des Cousins Théologiens. Salut, Maxime.
Salut, les amis.